Qu'est-ce que t'as comme laptop?
J'ai un Lenovo.
Lenovo, ils font des bons produits.
La société de Valitech.
Ah, Valitech, de Philippe
Philippe.
Valiquette, à
Ouais.
Bécomo.
Il connaît?
Ben écoute, Philippe, j'ai joué au paintball avec lui il y a une dizaine d'années. Il vient de Bécomo, moi, le monde est petit.
Ben oui, mais je pense qu'il joue encore au paintball, monsieur
Ben, je
Valitech.
pense que oui.
Sur sa photo de Facebook, en tout cas, il y a ça. Bon, là, les tests sont faits, c'est merveilleux. Comment allez-vous, peuple? J'espère que vous allez bien. Salut, Anouk, comment vas-tu? Anouk 83. Il y a Sarionge 86 également qui est là, et Norus 1. Pardon, un petit chat dans la gorge. Max était avec nous ce soir également, Max de l'Épée légendaire, Max Tremblay. Salut, Nifeldos ou Do, Nifeldos, je pense, hein? Ça doit être ça. Ils sortent des noms, les amis. Je sais pas, vous avez puisé ça, mais vous avez beaucoup d'imagination. Soso31, salut. Tigidou, regarde, c'est simple. Bang, bang. Salut, Tigidou, gang de
Moi aussi,
Chicoutimi.
j'aime beaucoup les noms que les gens créent sur Internet. Je pense qu'en arrière de chaque nom d'avatar, il y a une histoire qui vient avec.
C'est vrai. Merci beaucoup, Max. Aïe, aïe, aïe. Comment ça va? À part ça, les gens, vous êtes de bonne humeur. Mike de course 36 est là. Max le liseux. On va parler de Linux toute la soirée ce soir, Max, pour te faire plaisir. Comme dit.
Ouais, par la bande. Mais oui, on va en parler.
Ou pas.
Ou pas. Mais il y a quelque chose de gros aujourd'hui hein, pour l'univers large de Linux. Quelque chose
Compte-moi
de gros aujourd'hui.
ça. Compte-moi ça.
Ah, oh, mais c'était le Google I/O aujourd'hui.
Ben oui.
Google I/O 2015, le keynote, la conférence de présentation.
On va en parler plus tantôt. Ça, c'est le fun. Darkalouf, salut! Comment allez-vous? Il y a beaucoup de monde encore une fois ce soir. Ça va bien. Mais encore une fois, j'ai eu des meetings aujourd'hui. Puis les gens ne comprennent pas comment ça fait que le jeu vidéo, ça pogne autant. Ils ne comprennent pas ça. Les gens plus vieux, là, ils ne comprennent rien là-dedans. Pourquoi? Ils écoutent ça. Ils comprennent.
Moi, je me demande pourquoi les quilles, ça pogne autant.
Hey, les salles de bingo sont pleines aussi, tu sais.
Ouais, aussi.
Bon, enfin, voilà. Bambino 777, salut. Et Bencho Sly, qui vient de faire une petite plug sur Radio Talbot sur Twitch. J'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui. D'habitude, on a une aguiche audio qu'on fait jouer, où je dis des niaiseries, mais là, on n'a pas eu le temps de la faire aujourd'hui, malheureusement. Mais quand même.
Allez partager ça sur les réseaux sociaux, moi.
Oui, mais c'est le fun.
Oui.
C'est le fun. Ben, content de voir que tu vas bien, Max.
Ben oui, toujours.
La
Ça
grande
va toujours
forme.
bien, moi.
La grande forme.
La grande forme, presque. Presque à 100%.
C'est bon. C'est bon.
Mais les gens qui me suivent, ils le savent là, que j'ai été, que j'ai passé sous le bistouri, là, donc c'est pas une surprise pour personne.
Ça en est une.
Je suis assez ouvert au sens propre et figuré.
Oui, Aubert, ils t'ont peut-être gonflé un peu aussi.
Mon gonfle fait un petit peu aussi.
Ah, c'est le fun parce que t'es chez vous et t'es dans l'antichambre en même temps. C'est merveilleux.
Ouais, c'est pas mal cool.
Non, écoute, on n'arrête pas le progrès.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est quoi le show 352? Il est 20h, 28 mai 2015. On part ça, mon Max. T'es-tu prêt?
Je suis prêt, monsieur.
On y va. Je suis tellement habitué de lever les micros, je suis tout seul, puis tous les micros sont levés comme d'habitude. Stand by.
Radio Talbot est une présentation des Brasseurs Illimités et de la bière Simplement. Mogodio, les spécialistes pour le DJ, le son et la musique depuis 1998. Mogodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Salut tout le monde, ici Denis Talbot, avec de l'écho et toutes sortes d'affaires, et c'est fantastique. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis avec mon buddy, monsieur Max Tremblay de l'Épée légendaire, qui nous gracie de sa présence ce soir. Comment ça va, Lugar?
Ça va super bien. Bonsoir tout le monde.
Content que tu sois là, et je t'ai appelé comme ça, pied levé. T'as dit, oh, oui, moi, le faire, ça n'a aucun problème. Tu as suivi pour nous aujourd'hui la célèbre conférence I.O. On va en parler dans quelques instants de Google. Les gens qui trippent justement sur Android, vous allez être contents. Il y a des belles affaires qui s'en viennent. Le temps de vous rappeler que je serai avec nos amis de Epic Joystick. Ça va être pas mal fun, c'est dimanche. Je serai là avec eux pour jouer à Splatoon, un beau petit jeu. Et tout de suite, quand j'ai commencé à parler de Splatoon aujourd'hui sur Twitter, je fais un test. Tout de suite, il y a un gars qui est arrivé. Ouais, mais le jeu n'est pas fini. Puis là, attends, j'ai rien dit de mal. J'ai rien dit de mal. On va y
Il n'y a
jouer.
pas eu le temps.
Pas eu de temps. Tout de suite, il est assez à la défensive, notre ami. Mais non, 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 regarde, relax. Ah, mais ils ont dit que le jeu n'était pas fini. Correct, c'est beau. Je le sais. Mais quand tu lances un jeu puis tu veux que les gens s'amusent avec, c'est préférable, dans mon humble avis, de lancer un jeu complet. Ceci étant dit, je dis pas que le jeu est pas bon, là. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que il y a peut-être des affaires qui auraient mérité d'être travaillées, qui vont être travaillées éventuellement dans un correctif à venir. N'est-ce pas, Max?
Effectivement. Vois-tu, moi, j'en ai une copie aussi. On a eu la chance d'avoir des copies pour les tests pour de jeux vidéo pour pellegendaire.com. Puis c'est pas moi qui s'est occupé de faire la critique. Puis normalement, je devais commencer à jouer. J'étais super content de recevoir ça. Puis ouais. Problème de santé, là, j'ai dû tout mettre ça de côté pendant plusieurs jours. Donc, j'y ai pas touché du tout. Puis je prévoyais faire ça aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Google, donc, qui décide, qui prend toute la place avec sa conférence Google I.O. 2015.
Belle conférence, encore une fois, dans un centre qui est magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ce centre-là. C'est moi, j'ai eu la chance d'aller visiter ce Moscone Center à West San Francisco. C'est immense, c'est gros, c'est big, comme dirait l'autre. Et il y a du stock, il y a du monde là-dedans. Quand c'est vide, ça a l'air de rien, mais quand ils mettent de l'équipement dedans, ça a l'air encore deux fois plus grand. C'est bizarre, c'est étrange. Je l'avais vu avant qu'ils montent le salon où j'allais. Puis après, puis quand ils mettent les barricades, puis ils mettent les meubles, ils mettent les affaires, on dirait que c'est trois fois plus grand. C'est une drôle d'illusion. Donc, ça a été une belle conférence. Tu as suivi ça pour nous aujourd'hui, Max. Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
Bien, c'est sûr que moi, de mon côté, ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir où est-ce que Android s'en allait. Parce que là, il y avait déjà des rumeurs qui étaient parues. Notre ami Laurent Lassalle en parle régulièrement sur branchez-vous.com. C'était Android M qui a été présenté aujourd'hui dans sa version développeur, donc ce n'est pas la version finale, évidemment. Mm-hmm. Puis, d'entrée de jeu, ce que Google veut qu'on comprenne bien avec Android M, ouais, c'est qu'on veut faire un retour à la base avec un système plus stable et mieux poli parce que, bon, la version 5, la version actuelle, c'est pas les gros chars de ce côté-là, mettons. C'est pas présent.
Mais il y a beaucoup de compétition. La compétition est féroce en ce moment. Alors, tout le monde essaie de trouver sa place. Android, c'est Google quand même. T'sais, Google, c'est pas des deux de pique. J'imagine qu'ils ont écouté beaucoup la communauté et se sont ajustés.
Ils n'ont pas le choix aussi parce qu'ils ont quand même plus de 80% de part de marché là, lorsqu'on parle de téléphone mobile présentement. Fait que ça prend énormément de place. Un des trucs que j'ai trouvé très intéressant, parce que même s'ils veulent revenir à la base puis travailler vraiment à polir ce système-là, ils ont quand même annoncé quelques nouveautés, même s'il n'y en avait pas une tonne. C'était au niveau des permissions. Donc, lorsqu'on parle de vie privée, vous savez, lorsqu'on installe une application, il y a tout le temps une grosse quantité de permissions qu'on doit donner accès à l'application pour qu'elle puisse fonctionner. Puis, ce n'était pas possible auparavant de choisir qu'est-ce qu'on voulait autoriser ou non. Et ça, c'est une des grandes nouveautés du côté de Android M. Donc, c'est des permissions qui vont être plus granulaires, fait qu'on va vraiment être capable d'activer ou de désactiver des segments d'application au niveau des permissions sur ce qu'on donne accès ou non. Et ça va être modifiable une fois que l'application va avoir été paramétrée même la première fois. Fait qu'on peut retourner dans les paramètres, donner accès ou révoquer l'accès à certaines parties de l'application. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était très, très bien le contrôle d'utilisateur.
C'est un des trucs sur lesquels on a martelé aujourd'hui, la sécurité, ça va être sécuritaire, on travaille pour votre sécurité, c'est plus personnalisable. Ils ont eu des problèmes avec ça sur le Google Play, il y a eu quelques trucs qui se sont infiltrés. Est-ce qu'ils vont resserrer la vis à ce niveau-là, tu penses?
Je ne sais pas. C'est sûr et certain qu'ils ont déjà commencé à resserrer la vis. Ils disent que ces points de... Je pense que c'est 0,002% ou un chiffre dans ces eaux-là qui seraient seulement d'applications qui peuvent être infectées sur le Play Store. Et Google disent, nous, notre boutique d'applications, elle est fiable, elle est sécuritaire. Là, du côté d'Android, où est-ce qu'on a beaucoup de problèmes de sécurité, c'est lorsqu'on autorise des installations d'applications externes que les gens installent les fameux fichiers qu'on appelle les fichiers APK. Mm-hmm. Lorsqu'on peut télécharger manuellement et installer manuellement une application qui provient d'une autre source, c'est là qu'on s'expose à plus de problèmes. Mais Google nous dit, notre boutique d'applications, à nous, elle est sécuritaire plus que jamais.
Tu as remarqué que le gars qui parlait de ça, il s'est trompé. Il appelait ça l'App Store.
Oui.
Un peu gênant devant tout ce monde-là qui est réuni pour entendre parler de Google. Parlons un petit peu d'Android Wear maintenant.
Android Wear, c'est un système d'exploitation qui provient d'Android, qui est fait expressément pour les montres connectées. Ça aussi, on a plusieurs annonces intéressantes, notamment le fait qu'il va y avoir un nouveau mode ouvert, un mode toujours ouvert pour les applications. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que présentement, les montres intelligentes, il faut toujours activer l'écran de la montre pour être capable d'accéder au contenu d'une application, notamment à l'heure, parce que l'heure est une application en soi. Donc, on a développé un mode basse consommation où une application va pouvoir toujours rester affichée et active sur la montre, mais en très, très basse consommation. Ça, c'est un truc qui existe sur Windows Phone pour ceux qui sont des initiés. Ça s'appelle le Glance sur les appareils de Nokia. Donc, on peut avoir une certaine quantité d'informations sur l'écran d'accueil et ça consomme presque pas de piles supplémentaires à ce que l'appareil consomme déjà. Fait que ça, c'est une des nouveautés intéressantes pour Android Wear. Puis on disait que c'est une API qui allait être disponible pour une foule d'applications, donc exemple pour l'heure, mais aussi, on donnait l'exemple, si vous allez faire vos courses au marché, on fait l'épicerie, ben là, vous allez pouvoir conserver toujours la liste de vos trucs sur votre montre directement sans devoir réactiver la montre toutes les fois. Et on a envoyé une petite pointe à Apple en disant on n'a pas besoin de faire de gestuelle avec le poignet pour réouvrir la montre à toutes les fois. L'information, elle est là.
Ça joue dur, mais c'est le fun de regarder, de voir aller ça. On est revenu un petit peu sur Cardboard quand même, cette espèce de petite boîte de carton qui est quand même assez ingénieuse, il faut le dire.
Oui, ça, c'est un produit qui a été lancé l'an dernier, ouais. Le Cardboard. En fait, le concept est simple, hein, c'est que chez Google, ça fait partie d'un de leurs projets alternatifs là, que les employés ont 15 ou 20 de leur temps qu'ils ont le droit de travailler de leur propre chef. Et ce projet-là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait rendre la réalité virtuelle plus abordable, beaucoup plus facilement pour tout le monde? Puis, ultimement, ce qui arrive, c'est que le principe de la réalité virtuelle, c'est simplement d'afficher deux images séparées pour chaque œil, pour créer une illusion. Donc, l'idée, c'est simplement qu'avec le Cardboard, qui est une boîte en carton, qui est un support pour maintenir l'appareil à l'intérieur, ça sépare, ça fait simplement couper le champ de vision entre les deux yeux et les deux trous à l'intérieur, qui sont pour chaque œil, pointent sur une image qui est simplement séparée sur un téléphone intelligent à l'intérieur qui, lui, bon, une image séparée en deux. Mais comme le champ de vision est séparé entre les deux yeux, ça crée un effet de réalité virtuelle, tout simplement. Bon, cette année, chez Google, on a dit, bon, ce projet-là, on en a déjà livré plus d'un million l'an dernier. Maintenant, le nouveau modèle de Cardboard peut supporter des appareils jusqu'à 6 pouces, donc ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne boîte. Et l'assemblage maintenant, qui est une boîte de carton, littéralement, est beaucoup plus simple qu'auparavant. Donc, avant, c'était un truc en 12 ou 15 étapes. Et maintenant, c'est un assemblage simplement en trois étapes. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les gens pour faire cet assemblage-là.
Combien ils vendent ça, cette boîte-là? Le sais-tu le prix?
Je ne sais pas. J'ai pas fait la recherche. C'est vrai, j'aurais dû le faire.
Mais c'est pas grave. Je serais curieux parce que je sais qu'ils lancent des pointes un peu partout, mais ils sont fins avec Oculus, pareil, parce qu'ils vont avoir besoin d'eux tantôt. Mais je serais curieux. On va regarder. On va demander à quelqu'un sur Internet qui jette un coup d'œil là-dessus, qui nous dise dans le chat.
Oui, les gens sur le chat vont nous dire ça rapidement. J'ai bien l'impression.
au niveau de la photo aussi, il y a des trucs intéressants qui s'en viennent, une espèce de photo panoramique sur écran géant, c'était fantastique.
Oui, ça, c'est un projet qui s'appelle Jump, que Google ont présenté. Alors, en partenariat aussi, ils ont signé un partenariat avec GoPro pour monter un exemplaire de ça. Il s'agit d'un trépied qui accueille en fait plusieurs caméras de manière circulaire sur un cercle, sur 365 degrés au complet. Puis Google, avec le projet, a développé un algorithme pour régénérer l'image de toutes ces caméras-là en simultané, donc pour créer vraiment après ça, en réalité virtuelle, un effet de profondeur. Et ce que je trouve bien, c'est qu'avec le programme Jump et cette caméra-là, et le Cardboard finalement, c'est que Google s'est créé un écosystème complet de réalité virtuelle. Donc, on a la technologie pour filmer, pour créer des vidéos facilement en 3D, en réalité virtuelle, et on a la technologie pour le consommer aussi. Donc, ça a une foule d'applications intéressantes. On parlait d'ailleurs, par rapport à ce projet-là aussi, que des écoles pouvaient s'inscrire pour avoir une version des Cardboard avec, comment est-ce que je pourrais dire, c'était des vidéos en simultané. Donc, si je prends l'exemple d'une classe de 12 élèves, les 12 élèves pourraient avoir un Cardboard, mais l'image des 12 élèves est synchronisée entre elles. Donc, le professeur peut expliquer exactement ce que les élèves peuvent tous voir en réalité virtuelle, mais en simultané aussi. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait un bel écosystème du côté de Google pour la réalité virtuelle. C'est une approche totalement différente de ce que Microsoft fait avec le HoloLens présentement.
Mais t'imagines, tu veux visiter, je ne sais pas, les grottes de Laszlo, tous tes étudiants ont ça sur la tête, et puis virtuellement, on se promène, puis on regarde ça en 360. C'est fantastique où ça peut aller. Et ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte un téléphone intelligent, finalement, ce que bien des gens ont en ce moment.
Oui. Ben, c'est sûr que tout le matériel pour faire les vidéos, ça, c'est
Ouais, ouais.
beaucoup plus coûteux. Mais ça demeure que c'est des technologies qui existaient dans le cinéma et des choses comme ça. Je pense qu'on chez Google, on essaie de démocratiser ça et de faire baisser le prix de ces technologies-là, les rendre plus simples, plus abordables et plus accessibles à la majorité des gens. Moi, j'attends de voir des sportifs avec une grosse régine comme ça directement installée sur la tête. Aller faire des cascades avec ça, puis créer des vidéos de réalité virtuelle complètement débiles, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir.
Mais là, tu vois, les prototypes sont quand même gros, mais au fil des années, ça va se rapetisser, puis on va être en mesure de faire quelque chose de pas pire, j'en suis certain. D'autre part, les photographes vont être contents aussi parce que y a les Google Photos aussi qu'on a peaufiné un petit peu, là.
Oui, tout à fait. Et là, je veux prendre le temps de saluer Christian qui est avec moi aujourd'hui sur YouTube parce qu'on regardait ça ensemble. Google aujourd'hui ont annoncé une refonte complète de leur service photo, ce qu'ils ont fait déjà plusieurs fois dans les dernières années. On est passé de Picasa, qui est un logiciel qu'ils avaient racheté il y a plusieurs années, à une migration vers Google Plus. On a sorti ça de Google Plus maintenant pour créer un service séparé qui s'appelle Google Photo, tout simplement. C'est accessible dès maintenant sur photo.google.com. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a deux applications présentement qui sont déjà disponibles, une application pour Android
OK.
et, nouveauté, une application pour iOS aussi.
Oh, intéressant.
Oui,
Intéressant.
donc ça c'est vraiment très bien. Et toute l'interface de Google Photos a été revue complètement. Donc, on a une gestion intelligente des photos. Toutes les photos sont situées dans notre compte Google directement. D'ailleurs, parenthèse, Google offre du stockage illimité pour Google Photos.
Wow.
Complètement. Et c'est gratuit. Ça ne coûte rien.
Oui, attends un petit peu. Là, sauf que ça ne coûte rien, mais il se ramasse avec une belle banque de photos, peut-être, utilisable. C'est non?
Tout à fait. Et le conseil que je donnais justement aujourd'hui, c'est prenez le temps de lire un petit peu les conditions d'utilisation. Ça vaudrait peut-être la peine de jeter un coup d'œil. Ça vaudrait peut-être la peine de poser la question aussi à notre ami Jean-Sébastien Rodriguez,
Oui.
qui pourrait peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. Mais somme toute, c'est quand même un service qui est intéressant. Et comme toutes les photos sont situées directement dans le cloud de Google, l'application est très réactive parce que tout le processing est fait au niveau du web. Et ce qui est nouveau aussi avec cette application-là, c'est toute la façon d'organiser. Donc, comme c'est Google qui propulse toute l'organisation de vos photos, mais il y a une foule de technologies qui a été intégrée à l'intérieur. Donc, évidemment, pour l'édition de la photo, pour la correction automatique, mais aussi pour toute l'organisation. Donc, l'algorithme est capable de faire de la reconnaissance des visages pour, après ça, classer les photos par personne. Donc,
Très
peux cliquer.
pratique. C'est
Ouais.
pratique, ça, mon vieux. Non seulement pour nous autres, mais pour les autorités qui se ramassent avec des fichiers que les gens donnent volontairement de leur visage, de leurs enfants, de leur progéniture, les amis, les cousins. Imagine-tu la quantité de données qu'il y a là-dessus? C'est malade.
C'est clairement le cheval de fer de Google, de cette compagnie-là. C'est ce qu'on appelle le data mining, c'est tout le processing
Ouais.
toutes ces données-là. C'est là que leur marché est. Mais pour l'utilisateur, ça se traduit en une façon beaucoup plus simple de classifier les photos. Évidemment, on peut naviguer par date, mais exemple, je pourrais cliquer sur certaines photos que j'ai de Denis
Ouais.
et automatiquement, toutes mes photos sont filtrées avec juste des photos de Denis. Je peux naviguer et retrouver les meilleurs moments de Denis directement dans mon appareil. Et comme tout est sur le cloud, c'est très réactif, ça se fait très bien. Le service est disponible sur le web, sur Android et sur iOS, et c'est disponible dès maintenant sur photo.google.com.
On peut stocker aussi du vidéo 1080p jusqu'à
Oui.
16 mégapixels quand même. C'est quelque chose d'intéressant.
Oui, c'est intéressant et donc c'est gratuit. Je fais les signes de guillemets si vous écoutez en audio.
Oui, c'est ça.
C'est gratuit et c'est illimité. Donc, je pense que ça donne aussi un coup dur à des services comme Flickr, qui sont des services qui généralement prisés par les professionnels de la photo, qui chargent, qui, eux, demandent un abonnement pour pouvoir utiliser leur service. Là, Google qui débarque avec un service comme ça, qui est gratuit et illimité, et c'est sûr et certain qu'il y a bien des gens qui vont se lancer là-dedans. Il y a plusieurs autres services qui viennent avec ça, notamment la facilité de partage, les montages plus faciles et tout. Mais grosso modo, ça semble être un service qui est très intéressant et une autre parenthèse, c'est là où les gens de la foule ont réagi le plus. Donc, c'est l'annonce qui a plu le plus aux gens aujourd'hui.
Je m'attendais à ce qu'il annonce peut-être un service de jeu, mais c'est peut-être pas l'endroit, là, un genre de Twitch pour les gamers. Je sais que, bon, c'est dans les plans, j'ai entendu ça entre les branches, mais il n'y a pas un mot qui a filtré là-dessus jusqu'à présent.
En fait, j'ai pas pris de notes là-dessus aujourd'hui spécifiquement, mais du côté de YouTube, on a déjà annoncé au début de la semaine ou à la fin ou durant le week-end que le service était lancé. Donc, on peut déjà diffuser du jeu vidéo sur YouTube, c'est disponible. Et on peut le faire en 60 images par seconde jusqu'à 1080p.
Sur le même service qu'on utilise normalement?
Oui, tout à fait. Donc, c'est sur le service de diffusion de YouTube. Mais oui, c'est disponible dès maintenant. Donc, j'ai vérifié aujourd'hui, puis c'est accessible. Donc, et on peut cocher vraiment l'option pour afficher. Parce que pour le jeu vidéo, lorsqu'on fait de la diffusion, avoir la possibilité de le diffuser en 60 images par seconde, ça fait une grosse différence. Donc, là, c'est disponible. Je pense que ça aussi, du côté de Twitch, ça doit les chatouiller un petit peu présentement.
Effectivement, Twitch qui a décidé de serrer les rangs un peu, c'est-à-dire les gens qui étaient habillés un peu trop indécemment il n'y a pas si longtemps que ça, on leur a dit « habillez-vous ». Et puis là, on s'attaque aux jeux qui sont classés « adultes seulement ».
Oui, oui. Et là, on tombe dans un autre sujet complètement du côté de Twitch. La grosse annonce aujourd'hui, c'est que Twitch ont décidé de bannir complètement ce qui était jeu pour adultes.
Attends, tu peux juste faire une... Non, c'est ça, j'allais faire cette précision-là parce que j'ai reçu des courriels aujourd'hui. Quoi, ils vont bannir les jeux pour adultes? Adultes, là, il y en a peut-être quoi, une vingtaine, maximum 30 max qui sont diffusés en ce moment, sur qui sont répertoriés. Mais c'est pas ceux-là, c'est pas les jeux M, c'est les jeux adultes seulement AO, il faut le préciser.
C'est ça. Donc, c'est très rare. Cette cote-là est utilisée vraiment de manière marginale.
Ouais.
Il y a des titres qui sont visés très précisément par ça, parce que c'est des titres qui sont populaires sur Twitch présentement, notamment Manhunt 2, Fahrenheit, Indigo Prophecy, Director's Cut, et un jeu qui est à paraître, un jeu qui n'est pas sorti encore, qui s'appelle Hatred, donc qui est un jeu aussi d'une violence extrême. C'est évident que... Là, j'ai eu quelques éditions... Quelques discussions là-dessus, moi aussi, de mon côté, sur Twitter notamment. Les gens ne sont pas tous contents, préféreraient que Twitch reste une plateforme plus libre. Mais moi, ce que je dis, c'est que je pense que c'est un peu la rançon de la gloire. Et justement, on parlait de Google avec YouTube tantôt, qui s'en vient avec son service Axé Plus pour les gamers. Twitch et Amazon, parce que maintenant, Twitch appartient à Amazon, voient ça arriver. Et un service sur le web qui ne progresse pas aujourd'hui, c'est un service qui est déjà mort, moi, je pense. Donc, si Twitch veut continuer à progresser et à aller chercher des utilisateurs supplémentaires, ils se doivent de devenir plus grand public. Et pour devenir plus grand public, on passe par des mesures comme ça, malheureusement.
Mais il y a un commentaire qui m'a été fait. Je trouvais que c'était pas bête de faire une section peut-être adulte où, consciemment, lorsque tu vas là, tu sais que tu vas être soumis à des images choquantes ou à des trucs qui sortent de la norme, disons. Mais encore une fois, il y a tout l'aspect de triche, puis d'arriver à contourner le système, puis etc., etc. Mais ça pourrait être une option, penses-tu?
Ça pourrait peut-être être une option. C'est évident que le moyen de vérification d'âge devrait être plus serré à ce moment-là, parce que là, on tombe dans des catégories jeux. On le disait tantôt, il y en a seulement 26 présentement qui portent la cote à haut sur le ESRB. Mais c'est des jeux qui ont reçu cette cote-là pour des raisons très, très précises.
Ah ouais.
Donc, c'est sûr, je pense que c'est délicat un peu. Moi, je comprends, sans appuyer nécessairement la décision de Twitch là-dedans, je comprends la décision dans le sens que je vois qu'il y a d'autres services qui s'en viennent. On a Hitbox qui a été lancé, on a Twitch qui existe, qui est très populaire. On a YouTube avec Google en arrière et tous leurs gros moyens, leurs grosses équipes qui s'en viennent avec un service qui est axé pour les gamers. Et Twitch veulent conserver leur place de leader pour le jeu vidéo, ce que je trouve plein de sens dans leur cas à eux. Donc, je les comprends un peu de vouloir rester grand public le plus possible.
Il y avait une fille qui donnait des cours de Photoshop sur Twitch à un moment donné.
Oui, c'est vrai. Ben, j'ai des amis qui font du dessin. Lorsqu'ils font des dessins d'art ou des choses comme ça, ils utilisent Twitch pour ça. C'est une plateforme qui est très variée.
Ouais,
c'est pour ça, puis ça, c'est très personnel, là. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup Twitch. C'est qu'il y a une énorme variété là-dessus. Et la variété n'est pas juste dans la production, mais aussi dans la consommation. Donc, les gens aiment consommer cette variété-là.
Mais
il faudrait pas que ça devienne trop restreint.
Sauf que la dame en question reproduisait des dessins, des personnages de jeux vidéo avec Illustrator, Photoshop, tout ça. Ouais. Sauf qu'elle était en petite camisole, puis il faisait froid. Alors, elle avait quand même de bons atouts, si vous voyez ce que je veux dire. Et quelques semaines plus tard, on la voyait avec un chandail col roulé, parce qu'elle avait été avertie, je pense, par les autorités de Twitch qui ont dit « Hey, Minou, habille-toi, il y a des jeunes là-dessus.
» Oui, bien d'ailleurs, Twitch ont modifié leurs conditions d'utilisation, qui dit que maintenant, même pour un garçon, c'est interdit de faire de la diffusion torse nu, et les dames doivent être... décemment vêtu, elle aussi.
Moi qui pensais me faire poser des seins, oublie ça.
Moi, j'y ai pensé. J'allais les repousser à la place.
C'est ça. Maintenant, on va parler de la manette Xbox One. Bon, oui. On sent que le vent commence à tourner depuis que monsieur, le nouveau boss est là. Comment il s'appelle, Satella?
Satya Nadella.
C'est ça, monsieur Nadella, depuis qu'il est là. On sent que le bateau commence à tourner tranquillement. On raffine les produits, on change les affaires, on est à l'écoute. Des trucs qui étaient sur le back burner depuis plusieurs années semblent maintenant être pris en main. On commence à adresser plusieurs problèmes. Et là, la fameuse manette, je pense que c'est encore une fois, on vise l'écosystème avec ça, on veut uniformiser l'écosystème. La fameuse manette va être munie d'un port d'écouteurs. Ça a l'air ridicule, mais ça peut être très pratique.
Ben, d'ailleurs, présentement, la Wii U, sur le Gamepad, il y a un port 3,5 mm pour les écouteurs, et c'est le cas aussi de la manette de la PS4. Sur la manette de la Xbox One, pour profiter du port 3,5 mm, il fallait soit acheter le casque que ouais. Je porte d'ailleurs présentement, qui est un casque de Xbox qui vient avec cet adaptateur-là, ou simplement acheter l'adaptateur séparément qui utilisait le port d'expansion de la manette. Donc là, à ce moment-là, ça donnait un... Et je l'ai sur la photo. Je ne sais pas si cette photo-là que tu as utilisée pour montrer aux gens, mais sur l'adaptateur, on a... plusieurs boutons qui permettent de faire le mix directement, le mix entre le chat audio et le volume du jeu, et ajuster le volume du jeu aussi et activer ou non la sourdine du micro, tout simplement. Donc là, la manette n'avait pas de port directement 3,5 mm. Les gens se sentaient obligés d'acheter ça pour utiliser un casque et étaient très déçus, voire fâchés, avec raison. Aujourd'hui, la nouvelle, c'est que Microsoft a lancé une révision de la manette de la Xbox One. Donc, après le mois de juin, donc on comprend que ça va probablement être présenté durant le 3 2015. Après le mois de juin, les nouvelles manettes vont disposer d'un port 3,5 mm, mais le port d'expansion de la manette va rester là. Donc, si vous avez l'adaptateur, il va rester disponible avec toutes ses fonctionnalités quand même. Et aussi, on va avoir le port 3,5 mm directement dans la manette à côté de disponible. Donc, je pense que c'est le meilleur des mondes, c'est la meilleure des solutions qu'on pouvait faire. Si on avait simplement remplacé le port expansion par le port 3,5 mm, ça aurait fait des mécontents. Mm-hmm. Je pense que ça rend la manette plus accessible et plus attrayante ainsi. Et moi, j'aime beaucoup la manette, la Xbox One. D'ailleurs, là, pour la prise en main.
L'appréhension, oui.
Bien, c'est ça, là, pour l'appréhension, parce que j'ai des mains, j'ai des petites mains, on se croit pas, je suis tout petit. Donc, ça est plus naturel dans mes mains, et puis je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on arrive avec ça. Mm-hmm. Ceux qui veulent toujours acheter l'adaptateur pour avoir un maximum de fonctionnalités pour ajuster le volume à la volée ou la balance entre le chat et le son du jeu, ben, ils vont pouvoir le faire avec l'adaptateur encore de toute façon.
Le monde gueulait quand c'est sorti. La manette est sortie au début, le monde gueulait à cause de ça. Ah, encore un autre truc à acheter, nanana. Ouais. Ça a pris du temps, mais regarde, ils s'ajustent tranquillement, pas vite. Et on a droit donc à des petites innovations comme ça qui vont faire en sorte que peut-être ils vont charmer plus de monde. Je sais qu'on a de la misère encore au Japon. Je disais, les chiffres, ça ne veut pas là-bas. Ils ont baissé le prix. Baisse de prix éventuelle pour l'Amérique du Nord, moi, je pense que ça s'en vient. Peut-être après le 3, on va sûrement avoir des annonces là-dessus, mais là, on va nous vendre du plastique, on va nous vendre des lunettes, on va nous vendre des affaires, puis sûrement annoncer une baisse de prix, puis peut-être d'autres couleurs, des espèces de consoles aux couleurs de Batman, comme l'ont fait les gens de la PS4. Mais ça s'en vient. J'ai hâte de voir la conférence cette année. Les lunettes, ça va être un des points de vente les plus importants, je pense, à mon avis.
Ça peut être intéressant parce qu'avec le HoloLens, on n'a eu aucune nouvelle concernant la fonctionnalité du HoloLens avec la Xbox One. Présentement, ce n'est qu'un produit de recherche de les entreprises, donc dans ce qu'ils nous ont démontré. On n'a eu aucune interaction avec la Xbox. S'ils nous présentent quelque chose de solide entre les deux, ça peut être très intéressant, surtout que le HoloLens comme tel est un produit autonome. C'est un produit qui n'a pas besoin d'un ordinateur pour fonctionner. Il fonctionne tout seul. Donc, c'est bien intéressant.
J'ai hâte de voir comment ça va. On va l'interfacer justement avec la console, voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Ça va dépendre du prix aussi, parce que ça ne sera pas donné. J'ai comme l'impression qu'on va venir mettre la main dans nos poches.
Oui. Et concernant le prix aussi, justement, je vais t'amener là-dessus. Tu me disais tantôt en avant-show que tu as vu une rumeur concernant le prix pour le Oculus Rift.
En fait, c'est plus qu'une rumeur. Regarde bien, c'est ce monsieur-là ici qui s'appelle Monsieur Brandon Irib, qui est patron d'Oculus, qui confirme que le gadget, c'est pas un système tout en un. Hein. Il y avait des choses, il y a des déclarations qui avaient été faites les mois précédents, disant que ça, ouais, ça va être un truc autonome, mais peut-être branché. Finalement, il y avait beaucoup de rumeurs, c'était pas clair. Finalement, ça va prendre des lunettes, mais aussi un gros PC. Et Monsieur Brandon a dit le prix aujourd'hui. 1500 $ US pour les lunettes.
C'est pas donné quand même. Hein?
1500 $ c'est pas donné et il faut t'acheter un PC assez puissant en plus de ça.
Moi, j'ai vérifié que mon PC n'a même pas les spécifications requises pour utiliser le Oculus Rift à sa pleine capacité.
1500 $ m'a fait clignoter, regarde. 1500$, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais écoute, ça va sûrement se démocratiser au cours des mois, j'espère, parce qu'à ce prix-là, oui. Je ne suis pas sûr qu'ils en vendent un char puis une barge. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Non, et c'est un produit de première génération aussi, ouais. En même temps. Il ne faut pas oublier ça, il faut tout le temps qu'on garde ça en tête. Et c'est un produit en fait, pour eux, c'est un peu plus qu'une première génération, mais comme étant un produit grand public, ça va être une première génération. Et puis, c'est une nouvelle technologie aussi. Donc, oui, le temps va faire que ça va probablement baisser.
J'espère, en tout cas, parce que c'est trop cher en ce moment. D'autre part, celui que j'ai rencontré il y a quelques mois, M. Steve Wozniak, mon chum de Woz, va être intronisé. En fait, statufié, immortalisé au musée de Madame Tussaud de Londres. Et ils ont fait un petit sondage. Ils ont demandé aux gens dans le coin là-bas à Londres, qui vous aimeriez, quel personnage high-tech, quelle personnalité high-tech aimeriez-vous voir en cire statufiée, comme on dit. Ben, les geeks sont mobilisés. Ils ont dit Steve Wozniak. Donc, il va être aux côtés de son compère, M. Steve Jobs, qui lui a été transformé en chandelle il y a quelque temps. Et il va être là-bas. Là, ça va prendre 3 mois. On va le mesurer, on va le photographier et on va le modéliser en cire comme ça aux mains des spécialistes qui font ça. C'est pas toujours réussi, les statues, par exemple. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour à Montréal, voir au musée Grévin. Il y en a qui sont excellentes, mais chez Mme Tussaud, là, ils ont fait les Kardashian. Donc là, voici la photo. trouver quelle est la vraie. Je pense que les deux ont des faux seins, là, mais trouver quelle est la vraie. Non, écoutez, je trouve que ça ne ressemble pas trop. Mais j'ai hâte de voir Woz en cire. Donc, d'ici 3 mois, on va le découvrir sous forme de statue, puis on va le mettre au même emplacement que Steve Jobs.
Là-bas. Il y a un nom scientifique qui m'échappe présentement, qui explique le pourquoi quand quelque chose devient trop réel, mais pas pour, mettons, arriver au même niveau que la vraie réalité, ça crée une espèce de malaise naturel. Puis il y a un nom pour ce phénomène-là.
C'est vrai, j'ai entendu ça aussi. Je sais ce que tu veux dire. Quand c'est trop près d'une certaine réalité, comme des espèces de... On a vu ça apparaître quand les Japonais commençaient à faire des reproductions de robots là, avec des traits humains qui étaient trop bien reproduits. Les gens étaient comme... Ils me regardent drôlement. Ils me regardent drôle. Ils me regardent drôle. Mais c'est ça. Alors, j'ai hâte de voir M. Wozniak en cire, voir ce que ça va donner. D'autre part, FIFA 16 s'en vient, mesdames, messieurs. C'est le 25 septembre prochain et c'est la première fois, oui, je dis bien la première fois, que nous allons voir des femmes. On va pouvoir prendre un avatar de fille championne de soccer. Regardons la bande-annonce tout de suite. Hein?
We're not here to stand and watch.
This is our game too.
The time has come.
I'm in the game.
Je suis dans le jeu.
I'm in the game.
We're in the game.
Wir sind im Spiel.
Hey, y'all, my spieler.
Estamos en el juego.
We're in the game.
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 They're in the game.
Mm-hmm. C'était le temps. C'était le temps aussi.
Ben, je comprends.
Un sport plus international et plus universel. Que le soccer.
Écoute, moi, je vais souvent voir les parties ici au parc, puis les filles jouent aussi bien que les gars. Là, it's about time. Puis là, ça va être la grosse annonce, j'imagine, aux trois aussi. On va voir des filles qui vont expliquer le processus de modélisation. Tout le kit. Bravo, IE. Souvent, on vous tombe sur la tomate, mais là, c'est une bonne initiative.
Non, c'est un bon coup.
Oui. Il commence à être temps que ça se fasse de plus en plus. Au lieu de voir toujours des filles avec des gros nichons, une petite tenue en train de battre des dragons. Malgré que ça aussi, c'est le fun. Là.
C'est mais un autre style.
D'autre part, parle-moi un peu de la PS Vita qui devient Legacy. Explique aux gens c'est quoi Legacy tout d'abord.
Oui, écoute, là, j'avais pas de terme. J'ai essayé autant de trouver un terme pour franciser le Legacy qui, lorsqu'on le prend tout seul, ça veut dire héritage, mais ça ne fit pas le concept pour cette phrase-là. Lorsqu'on dit qu'un produit devient Legacy, dans le fond, ce que Sony ont utilisé comme mot, c'est Legacy Platform. Ça veut simplement dire qu'on considère que cette console-là, c'est terminé, sa vie est terminée pour le marché. Sony, c'est dans une réunion avec les investisseurs, il y a un monsieur que j'oublie son nom, malheureusement, ma page est en train de s'ouvrir, qui dit que la PlayStation Vita, c'est Andrew House, donc qui est le président et directeur général de Sony Computer Entertainment, qui dit que la PlayStation Vita, en dehors du Japon et de l'Asie, est maintenant considérée comme étant une plateforme legacy. Ce qui veut dire, somme toute, que cette console-là ne resservira plus d'investissement majeur pour ces marchés-là, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont des grands fans de cette console-là. Ça veut pas dire que la console est morte nécessairement, mais ça veut simplement dire que les jeux AAA ou du gros marketing pour cette console-là ici, c'est terminé.
Ouais.
On n'en aura plus. On sentait déjà depuis quelques mois que ça allait moins bien. L'an dernier, Sony ont fait des gros efforts pour essayer de propulser cette console-là encore plus. On l'a relégué un peu, on l'a représenté, si on veut, comme un accessoire pour la PlayStation 4. Ça a fonctionné un petit peu, il s'en est vendu un petit peu plus, mais pas assez au bout de Sony. Des jeux comme Tearaway, qui sont sortis l'an dernier, qui sont des jeux de Sony directement, n'ont pas vendu, n'ont pas rencontré les objectifs qui s'étaient fixés. Donc, malheureusement, c'est une plateforme... C'est l'histoire de la PSP, hein? C'est l'histoire de la PSP qui se répète encore une fois, qui ne fonctionne qu'au Japon et en Asie.
Mais c'est ce qui arrive avec les téléphones intelligents aujourd'hui. T'as-tu le goût de traîner une PSP en plus? Tu sais, t'as ton téléphone, t'as des petits jeux, quand t'attends le bus ou ça tente de passer du temps. De traîner ton téléphone, une PSP, à part Bruno Georget, là, qui fait ça?
Salut Bruno. Bruno Georget, je l'entendais dans son propre podcast dire cette semaine que la PSP Go. Celle qui disait qu'il l'aimait tellement, qui a été probablement une des consoles qui a été déçue le plus parce que Sony l'avait abandonnée. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe encore un petit peu avec la PlayStation Vita. Moi-même, j'ai eu une PlayStation Vita et c'est la première fois que je revendais une console en cours de génération et que ce n'était pas pour la remplacer par un nouveau modèle. Exemple, j'ai fait ça avec ma 3DS.
Ouais.
Et donc, parce que quand on m'a vendu la PSP Vita, quand Sony me vendait la PSP Vita, la PS Vita, au début, on disait ça, c'est une PlayStation 3, mais dans tes mains. Tu vas pouvoir avoir des jeux AAA là-dessus, puis traîner ça au bureau, puis jouer tout le temps à des jeux.
C'était pas tout à fait le cas.
On a eu une génération de jeux au lancement de la console qui étaient des jeux de ce genre-là, mais ça n'a pas très bien fonctionné.
Non.
On a eu des ports plus ou moins bien exécutés, des fois avec des textes qui n'étaient même pas ajoutés, donc très, très petits à l'écran. Je regarde dans ta direction, Need for Speed.
Oui.
C'est ça. Et au fil du temps, ces jeux AAA, là, on cessé de paraître sur la console, qui, elle, a trouvé quand même une niche très intéressante dans tout ce qui est JRPG et dans l'indépendant aussi. Donc, c'est une console niche, c'est une console aux capacités exceptionnelles, c'est une maudite belle console, mais qui, malheureusement, n'a pas élevé autant que Sony aurait voulu. Donc, c'est ce qui se produit aujourd'hui avec ça.
Les sapris téléphones intelligents ont tué le marché, mesdames, messieurs. C'est le démon, ces affaires-là.
Oui, même du côté de la 3DS, Nintendo vend une quantité phénoménale de 3DS parce qu'ils réussissent à renouveler le modèle, puis les gens les rachètent et les rachètent encore. Mais là, on a atteint, je pense, le plateau du 45 millions de consoles. C'est beaucoup du côté de la 3DS, mais c'est pas aussi élevé que ce que la DS vendait à l'époque. Et la raison est fort simple, c'est les téléphones intelligents, ça aussi. Donc, même si la 3DS est un meilleur succès, même là, on voit qu'il y a un ralentissement et que ça ne fonctionne pas aussi bien que Nintendo voudrait ou Sony, eux, dans leur cas, c'est plus difficile, là, mais les consoles portables, on a un gros point d'interrogation à savoir est-ce qu'il va y avoir une prochaine génération de ces consoles-là. J'ai hâte de voir.
Sony aussi avec ses téléphones aussi, il s'est tiré dans le pied un petit peu en ayant une PSP, un téléphone, tu sais, en même temps dans le même marché. Ils se faisaient de la compétition à eux-mêmes. C'est une espèce de cannibalisme. En tout cas, regarde. Je pense qu'ils ont couru un petit peu après. Quand tu veux le beurre, l'argent du beurre, la vache, puis tout ce qui vient avec, à un moment donné, t'as atteint un plafond, puis je pense qu'ils l'ont atteint assez rapidement.
Souviens-tu, avant qu'on passe à l'autre, je voudrais savoir si tu t'en souviens, c'est que lorsque on était encore au stade des rumeurs pour la PlayStation Vita, les gens disaient ça va peut-être être un téléphone avec des sticks, puis je vais pouvoir m'en servir comme téléphone.
Ouais.
Tout le monde pensait ça. Finalement, Sony ont annoncé une PlayStation Vita 3G au lancement, qui est disparu assez rapidement d'ailleurs.
Bye-bye.
Bye-bye, oui. Et elle ne pouvait pas téléphoner. Le 3G ne servait qu'à faire du multijoueur et à utiliser les fonctions connectées de la console, qui étaient somme toute assez limitées aussi. Donc, les gens ont été très, très déçus de ça. Et Sony entretenait à côté une plateforme de jeux vidéo pour ses téléphones à eux. Donc, oui, ils se sont tirés dans le pied. C'est une mauvaise planification, mais chez Sony, c'est une grosse, grosse compagnie et les divisions ne se parlent pas nécessairement entre elles directement.
Ben, souviens-toi ce qui est arrivé avec les gens de RIM qui ont sorti le Playbook, qui est une tablette, mais qui te demandait d'avoir un BlackBerry pour prendre tes courriels.
Tu sais, tout à fait. Je l'ai essayé à cette époque-là. C'était risible. C'était une très bonne tablette. Et le système d'exploitation était excellent, mais il y a des fonctions de base qui n'étaient pas là, c'était inacceptable.
Mais il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là quelque part, qui a dit « OK, ouais, bonne idée, on fait vendre des téléphones puis des tablettes, bravo. » Oui, mais monsieur, c'est parce que... Non.
Okay. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Écoute, même des produits qui sont lancés aujourd'hui, si je pense à l'Apple Watch ou les montres connectées Android, on parlait d'Android Wear tantôt, ne sont pas des produits autonomes. Moi, ces produits-là, le jour où est-ce qu'ils vont devenir autonomes et qu'ils n'auront pas besoin d'être connectés à un autre appareil pour pouvoir fonctionner, ça va être beaucoup mieux. Mais là, tant qu'on c'est des appareils esclaves, on va le dire comme ça.
Ou en symbiose.
Oui, c'est ça. Si tu sais que tu vas rester dans la plateforme Apple pour toujours, ça peut devenir peut-être un peu plus intéressant ou du côté Android. Mais pour les gens qui aiment changer de technologie et ne pas avoir les mains attachées à une compagnie, ben c'est pas intéressant du tout et c'est mon cas.
Bon. Parlant de mains attachées, un homme aujourd'hui, ou c'est hier, avait à son panier une magnifique Apple Watch. Il se promenait. Son nom, c'est M. Jeffrey Mason. Il a reçu une amende de 120 $ parce qu'il avait dans son poignet une montre ou une watch.
Parce qu'il utilisait la montre en véhicule, d'ailleurs.
C'est ça. Est-ce qu'il a jeté un coup d'œil pour regarder l'heure? Est-ce qu'il a simplement fait ça comme ça? Ah, il est 20h39. Ou il a fait comme... Mais nous, n'oublie pas la bouffe pour le chat. Et puis, tu sais, bon.
Dans tous les cas, la Apple Watch est un produit qui peut passer des appels téléphoniques. La loi est claire. Je suis allé revérifier aujourd'hui. On ne parle pas de téléphone. On parle d'appareils qui ont la capacité de passer des appareils téléphoniques. Ces appareils-là, on n'a pas le droit de les manipuler. Si on veut les manipuler pour prendre un appel, on a le droit de les placer dans un socle sur le véhicule. Et même dans cette position-là, vous n'avez pas le droit de manipuler l'appareil pour changer la musique. C'était la raison de ce monsieur-là.
Tu y touches, t'inquiètes. Tout simple que ça.
Sauf si c'est pour prendre un appel. Donc, cliquez sur « Oui, je prends l'appel ». Donc, c'est tout. Donc, vous n'avez même dans un socle, vous n'avez pas le droit de manipuler l'appareil pour changer la musique, ce qui était le cas. Donc, comme la Apple Watch possède la fonction téléphonique, ce monsieur-là, le policier, finalement, a appliqué la loi à la lettre. On ne sait pas si c'est un trou juridique encore. Je pense que non. Je ne suis pas juriste, mais je pense que le texte de loi est assez clair à ce sujet-là. Et encore là, c'est une question qu'on devra soumettre à notre ami Rodriguez.
J'ai un ami policier, puis il me dit, t'es dans ton char, je te vois toucher à ta montre, t'inquiète. C'est-tu clair? J'ai dit, voyons donc, même si je regarde l'heure, puis je lève ma manche, tu touches à ta montre, t'as un ticket. C'est aussi simple que ça, parce que pour moi, c'est impossible de prouver que tu n'es pas en train de faire autre chose. La loi est claire, tu touches un appareil qui est, comme tu viens de le dire, qui est capable de faire éventuellement des appels téléphoniques, t'es out. J'échappe mon téléphone dans le fond de l'auto, mettons, je me penche, je l'ai ramassé, même je suis arrêté à un stop, mettons. Bang, ticket.
Interdit.
C'est 4 points de démérite en plus. Le monsieur, il a l'intention d'aller se battre en cour avec un avocat pour défendre son point. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. À Londres, dès que la Watch est sortie, il y a une loi qui a passé avant même qu'elle soit disponible dans les magasins. Là, la loi a passé. Interdiction de conduire avec la Watch de te toucher à sa watch en voiture. Écoute, les Anglais n'avaient même pas encore la montre dans le poignet que la loi était passée. En France, c'est maintenant. En France.
Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair.
C'est, tu le sais de suite. Bang, tu as une montre dans l'auto, puis tu. Non, fireball, tu peux te faire réprimander. En France, on n'aurait plus le droit d'utiliser les oreillettes filaires ou le Bluetooth au volant.
C'est ça, fou. C'est encore plus.
On pousse ça une coche plus loin. Qu'est-ce qui arrive avec tous les systèmes embarqués? Tu sais, comme moi, dans mon super voiture de luxe, j'ai ma Echo, j'ai un système embarqué. Est-ce que je pourrais m'en servir quand même? Même si je n'y touche pas, je mets mon téléphone derrière, ça se branche tout seul, ça sort les haut-parleurs, ça coupe ma musique de Michel Richard, et là, je parle avec quelqu'un. Est-ce que ça va être le même cas? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être possible? On ne voit plus. Ah, t'es là. Salut, toi.
J'ai juste déplacé la lampe un peu parce que je me suis rendu compte, quand je l'ai placée, il faisait encore jour et là il commence à faire noir. Ouais. Je me rends compte que la propulsion de la lumière est beaucoup trop forte dans mon visage.
Ben moi, je pensais que tu te faisais bronzer. Il est en train de suer, le grand. Ah, je vous rappelle que l'émission de ce soir est une gracieuseté de notre ami, un peu nos amis de chez Simple Malte. Exactement. On a la Beer Cam ici et ce soir, on déguste une saison belge. Je déguste parce que je suis tout seul, en tout cas. Parce que lui est trop loin là-bas. Là. Mais la prochaine fois, tu es à Montréal, tu viens faire un tour, tu vas faire un petit podcast avec nous autres ici. Merci.
Au mois de novembre, ça c'est certain. Déjà, j'ai déjà mon billet pour le Geekfest de Montréal.
Bon, ben c'est sûr. Moi, on m'a demandé d'être là. J'ai dit oui, tentativement. Ça va dépendre de mes activités professionnelles. Parce que bien du monde qui m'appelle, fais une parenthèse en ce moment. Puis, hey, viens faire un tour à mon festival, je veux que tu sois ici, viens ici, viens ici. Puis, c'est loin. Là, dans le moment, c'est que j'ai aucune idée de mon horaire fixe. Parce que là, les vacances, ça en vient. Ça en vient. Les boss qui font, c'est qu'ils prennent des décisions, puis ils s'en vont en vacances, ils s'en vont au golf, ils s'en vont ailleurs, ils reviennent une semaine, ils repartent deux semaines. Mais moi, là, j'attends. J'ai pas d'horaire fixe encore. Alors, come on. Come on, les boss. Pensez au Talbot ici, là, qui veut plaire à tout ce monde-là, puis gagner sa croûte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce que je travaille? Où? Quand? Comment? Go! Bon, c'était le message d'intérêt public. À part ça, as-tu vu ça passer, la dernière patch de Witcher 3, ça n'a pas été un succès. On a parlé hier avec Yann, mais là, justement, ce matin, en se réveillant, on s'est rendu compte qu'il y a des petits problèmes.
Oui, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce soir. C'était justement pour faire suite à ce que tu disais hier. Tu disais que tu étais bloqué dans l'une de tes quêtes parce que c'est un journal qui n'apparaît pas ou quelque
chose? Exact, exact. C'est une lettre que je dois lire, puis la lettre en question, je ne suis pas capable de la lire parce qu'elle n'est pas là.
Bon, tu vas probablement être bien content d'apprendre que du côté de CD Projekt Red, on acquiesce, on dit oui, on est conscient, on a rencontré des problèmes qui brisent l'expérience pour les quêtes, mais un problème a déjà été identifié et on travaille déjà à régler la situation.
Tu sais, c'est le fun parce qu'eux autres, quand ils ont un problème, ils disent pas que c'est à faute des fabricants de cartes. Ou, hey, sinon, non, c'est pas nous autres ça, parce que nous autres, notre jeu est bon, mais c'est les gens de Nvidia ou de AMD là, qui ont pas fait des bons pilotes, puis c'est pas nous autres. Non. Ça te rappelle-tu quelqu'un?
Oui, effectivement. Puis on prend notre. Je trouve ça le fun parce qu'on prend la responsabilité de. CD Projekt ont toujours été un studio qui avait une bonne attitude face aux joueurs, à leur clientèle. Et d'ailleurs, ont été très transparents récemment concernant le fameux downgrade de graphisme sur la version PC versus le démo technique qui avait été présenté en 2003. Donc, moi, je pense qu'il y a des bonnes personnes derrière ça. Donc là, oui, on est conscient qu'il y a une problématique concernant cette quête-là. Ça toucherait présentement les gens qui s'y jouent sur PC et sur PlayStation 4, mais pas tous les joueurs nécessairement. Donc, c'est pas tout le monde qui rencontre ces problématiques-là. Et oui, on travaille sur une rustine, une mise à jour qui devrait être déployée prochainement pour régler cette situation.
Je préfère parler de retouches, car pour moi, un jeu, c'est une œuvre d'art. On retouche les œuvres d'art, on ne met pas des patchs. Merci beaucoup, c'était mon commentaire extérieur de la soirée. Assassin's Creed Syndicate, je pense que les gens d'Ubisoft, depuis une certaine bévue, sont maintenant plus à l'écoute des gens, sont beaucoup plus ouverts dans le processus de création et ils nous le prouvent, ils nous font essayer des jeux en alpha, puis beaucoup plus d'informations, beaucoup plus ouverts. Et ça, j'apprécie ça, moi, personnellement. Je ne sais pas si tu, en tant que gamer, t'aimes ça, toi. Moi, j'aime ça savoir ce qui s'en vient, puis j'aime ça avoir l'heure juste. Et en ce moment, c'est ce qui se passe chez Ubi. Et ils ont été à l'écoute, encore une fois, des gens qui anticipent la licence Syndicate.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça découle du lancement un peu chaotique d'Assassin's Creed Unity l'an dernier. On se rappelle que lorsque le jeu a été lancé, le jeu avait plusieurs problématiques de stabilité, notamment, encore là, qui était principalement sur PC et PS4. Moi, c'est drôle, hein, parce que lorsque j'ai eu une copie en avance aussi pour faire la critique pour notre site web, puis j'ai eu une copie Xbox One. Fait que là, tu sais, je voyais bien que des commentaires sur le web, des gens qui disent « ça plante, ça va pas bien, on a des problèmes », puis j'ai dit « OK, là, j'ai terminé le jeu en une vingtaine d'heures », j'ai dit normalement, j'ai assez joué pour faire la critique. Je vais en faire plus. Je vais vraiment essayer de forcer le jeu à me planter d'en face pour voir si je peux vivre cette expérience-là. Au bout de 35 heures de jeu, j'étais tanné. J'ai eu pas de problématique. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai dû évaluer le jeu en conséquence. Mais tout ça pour dire que le lancement de Unity a quand même été chaotique l'an dernier. On veut éviter ça. Et ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y avait plusieurs, notamment ça au niveau de la stabilité, mais il y a aussi plusieurs mécontentements concernant les applications compagnonnes et le mode en ligne. Donc, déjà, concernant Syndicate, le mode en ligne, on sait déjà qu'il n'y en aura pas. Fait que chez Ubi, on va se concentrer sur le mode solo.
Bravo.
Et pour l'application compagnonne, il n'y en aura pas non plus. Donc, il n'y aura pas de truc où est-ce que vous devrez jouer sur une tablette ou un téléphone pour être capable d'accumuler des points ou de l'argent de plus pour être capable ensuite d'aller ouvrir des coffres de couleurs spéciales à l'intérieur du jeu, ce qui finalement a plu à une très faible minorité de personnes.
Qui travaillaient au marketing.
Oui.
Probablement.
Peut-être, oui. Donc là, on y va vraiment plus à l'ancienne. On concentre nos énergies pour faire un bon jeu solo, pour s'assurer que ce jeu-là soit prêt à la sortie. Et je pense que c'est directement lié au feedback que les joueurs ont donné depuis les deux dernières années concernant la franchise Assassin's Creed.
Parlant de feedback, il y a Phil Go qui dit sur Twitch, « Hey Max, ferme le coffre au trésor à côté de toi. »
Oui, je l'ai vu. Malheureusement, je ne peux pas le fermer, sinon vous me verrez plus.
Excellent. Non, écoute, les gars, les filles sur Twitch ont un bon sens d'humour. Hier, la passe des manettes puis du joystick, je l'ai bien aimé.
Oui.
C'est notre ami Ben Chauchelet qui a fait ça. Bon, écoute, t'as-tu joué à toi un petit peu? T'as-tu le temps d'en parler? Tu m'as dit que t'avais pas joué au jeu Splatoon. Ouais.
Non, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Comme je disais, j'étais super aujourd'hui et j'ai pas pu.
Mais t'avais Splatoon un peu magané aussi, il faut dire.
Oui, c'est un peu ce qui est arrivé durant la dernière semaine. Là. Je commence juste à être capable de rester assis durant quelques heures à la même place. Là,
OK. Donc, écoute, je vais te laisser aller de bord. Ça ne sera pas long.
Non, mais là, ça va bien. Là, je me sens bien. C'est pour ça que j'ai accepté de participer.
Ben, t'es bien fin. J'apprécie bien gros. J'apprécie énormément. Et prends l'établissement. C'est pas facile ce que tu as vécu. Donc, Splatoon, aujourd'hui, je commence à dire hey, j'ai juste écrit Splatoon, un jeu de fun, amusant. Ça commence. Là, l'autre répond. Là. Puis là, il y en a un qui arrive. Ouais, mais là, t'as une minute, là, le jeu n'est pas fini. Attends, on n'a pas dit qu'il n'était pas bon, le jeu. J'ai vu les trucs de Nintendo qui disent que, bon, le jeu n'est pas. On va lancer un jeu qui n'est pas tout à fait à notre goût. On le lance quand même. On pense qu'il est jouable, qu'il est le fun. Il va y avoir des maps qui vont arriver. Il va y avoir du contenu. Tout ce qu'on a reproché au jeu. Moi, ce genre de jeu-là, je ne sais pas s'il va atteindre la masse critique de joueurs. Dans son état actuel. Oui, il y a le fun, mais à un moment donné, les maps sont générées automatiquement, là, après, je pense, aux 4 heures ou 2 heures, je ne sais plus exactement, mais il me semble que j'ai joué à la même map 14 fois de suite. J'avais hâte de changer. T'sais, dans certains jeux, on peut choisir les maps. Là, ce n'est pas le cas. On va sûrement améliorer la rotation, tout ça. On déplore aussi le manque de communication entre les joueurs. Je sais que ça s'en vient, mais quand tu lances un jeu, lance-les au moins avec certains éléments qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir se parler. Je sais également que Nintendo, dans sa grande sagesse, veut éviter les trolls sur Internet, des gens qui gueulent, qui traitent tout le monde de tous les noms. Et c'est une console qui est plus familiale, donc on ne veut pas soumettre nos jeunes à ce genre de harcèlement ou à ce genre de langage ou à des commentaires qui peuvent être quand même assez déplacés souvent. Donc, je comprends tout ça. Mais il y a moyen de mettre un petit piton, là, de dire, regarde, toi, en tant que parent, tu gères le petit piton, tu dis, je veux pas qu'il parle, tu baisses là-dessus.
Les consoles de Nintendo, comme la 3DS, il existe un contrôle parental, ou même comme la PS4 ou la Xbox One. Donc, ce serait possible de faire le contrôle à ce niveau-là. Ça peut empêcher la Wii U d'avoir des jeux comme Call of Duty Ghost, où est-ce qu'on pouvait jouer en ligne avec du chat vocal librement. Donc, on sait que la console est capable. Je pense que du côté du développement de Splatoon, on n'avait peut-être juste pas eu le temps de l'implanter.
C'est ça, ça sent vite, on lance ça, on fait quelque chose de stable qui joue. Et ceci étant dit, le jeu est beau, la prémisse, c'est le fun. Maudit que c'est le fun. C'est le fun, j'aurais aimé ça être capable de jouer avec des chums sur le même divan, tu sais. quatre manettes, ouais. Là, on joue ensemble, on trippe, on a du fun, qu'on ait une autre gang à quelque part, n'importe où, puis on joue ensemble. Là, c'est un contre un. Un qui utilise la télé, ça, c'est bien implémenté, le gamepad, tout ça, mais c'est un contre un. Ça fait qu'il manque un petit peu d'affaires. Mais ceci étant dit, c'est le fun, le jeu est intéressant. Si vous avez des enfants, vous allez tripper là-dessus. J'aurais aimé ça être capable de jouer en gang. Dire, hey, Max, on s'en va avec nos chums, à soir, on se donne rendez-vous à 8 heures, puis on peinture la ville. On va avoir du fun. Les maps sont le fun, ils ont été bien dessinés. C'est des maps avec des points d'étranglement qui. T'as pas le choix à demander. Quand tu passes par là, il faut que ça. La bataille pogne, c'est drôle. Ça se peinture à gauche puis à droite. Le fait de pouvoir tapoter avec le gamepad sur la tête de quelqu'un qui est plus loin puis s'en aller l'aider, ça, c'est le fun. Ça peut changer la partie du tout au tout. Ça, j'ai trouvé ça bien cool. Les espèces d'effets spéciaux, les tornades de peinture, toute la quête. C'est cute, c'est beau, c'est le fun. C'est un jeu qui écoute, il est très coloré. C'est un jeu que j'aime. J'ai hâte de voir où on va aller avec ça. Et si ça va pogner, par exemple.
Moi, j'ai hâte de voir aussi, parce que j'y ai pas joué encore, hein, donc je pourrais pas commenter si j'aime ou j'aime pas. Mais ce que j'aime de ce que j'ai vu, c'est que c'est complètement unique. C'est qu'on a vraiment créé quelque chose pour ça.
Enfin!
C'est ça, c'est ça. C'est une nouvelle franchise. C'est une nouvelle propriété intellectuelle. C'est quelque chose qui flambe en neuf et qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un concept vraiment unique, même si ça s'appuie sur des concepts de jeux de tir. Mais ultimement, le concept et la façon d'y jouer est complètement différente. Et il y a une variété d'armes incroyable pour peinturer justement ses ennemis là-dedans. C'est ça que j'aime. Et c'est ça qu'on veut du jeu vidéo présentement. Des licences et des franchises qui reviennent à répétition d'une année à l'autre.
On stanne.
Assassin's Creed tantôt ou Call of Duty.
On stanne.
On peut stanner. On aime ça quand même. On est bien content. Moi, je suis un joueur de Call of Duty. Je joue à ça régulièrement. Puis c'est drôle parce que je vous entends parler, vous dire que vous aimez pas ça. Puis moi, je suis comme Call of Duty, Titanfall, gros pipe.
Mais tu vois, c'est une question de goût comme il y a Van Ash qui dit pas d'accord. Splatoon n'a pas besoin de voice chat du tout. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Van Ash. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je joue à tous les soirs avec les chums. C'est le fun en maudit de se retrouver en gang, avec du monde que j'ai jamais vu physiquement, mais que c'est devenu des amis virtuels, puis qu'on on rentre dans notre place à nous autres, puis on s'assoit, puis on joue, puis on roue. Tu sais, on discute, puis en kickant des culs. Ça, c'est drôle. Moi, c'est ça que j'aime. Si t'aimes pas ça, c'est correct, je respecte ça, mais moi, c'est mon avis à moi, et that's it. Mais j'aime ça pouvoir socialiser avec ces gens-là, puis, tu sais, rire comme des malades. Ceux qui ont entendu nos playtests, vous voyez ce qu'on fait, on déconne, puis on s'amuse, puis des fois, on joue pas, on fait juste rire. Fait que c'est ça que je recherche dans le mode multijoueur, moi, avoir des expériences de jeu intéressantes, mais avec des amis, des pis, et avoir du fun. C'est pour ça qu'on joue, non?
Oui, tout à fait. C'est à ça que ça sert le jeu vidéo, ben, c'est pour avoir du fun. C'est le principe numéro un. Et je pense qu'il y a beaucoup de fun à avoir avec Splatoon. Ultimement, si on pense que le chat vocal n'est pas nécessaire, on a juste à ne pas l'utiliser. J'aime le concept de si on décide qu'on n'en veut pas, on peut mettre toutes les autres sur mute, tout simplement, et ne pas participer à ça. Mais l'important, c'est d'avoir le choix. Donc, si on veut l'utiliser, on peut. Et si on ne veut pas, on a juste à ne pas l'utiliser. Le fun, c'est d'avoir le choix de l'utiliser ou non.
C'est ça. Comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un jeu qu'on a fait rapidement, qui est bien fait, mais qui va se bonifier avec le temps, avec les améliorations qu'on va emporter. Et j'ai comme l'impression qu'on va l'annoncer au prochain E3. Du moins, je le souhaite, en tout cas.
Oui, et je pense que c'est une franchise qui est très importante pour Nintendo. On voit qu'il y a beaucoup de marketing autour de ce jeu-là présentement et on pousse ça très, très fort. Donc, j'ai l'impression que pour eux et pour la plateforme de la Wii U, c'est un jeu qui est d'une grande importance.
Ah oui, oui.
Et de ce que j'entends rapidement comme ça, ça semble être relativement positif jusqu'à maintenant. Fait que je suis content pour eux.
Moi aussi, je suis content et je souhaite que ça continue. Puis on en veut des nouvelles licences. Je suis tanné de jouer toujours aux mêmes affaires. Puis c'est pour ça que je me dirige de plus en plus vers l'indépendant où on goûte à des produits. Malheureusement, souvent, l'indépendant, ils vont jouer dans le rétro, dans des trucs qui me rappellent trop ce que j'ai joué il y a 20 ans, puis à la sortie du jour. Mais il y a toujours ces petites surprises-là qui sortent de temps en temps, les perles rares qui viennent capter notre attention avec lesquelles on va s'amuser follement. Max, c'est tout le temps qu'on a ce soir, malheureusement. Je dois y aller. J'ai un petit pet qui a des problèmes au niveau des dents. J'allais voir ça. Maman est venue faire un tour il y a 2 secondes. Elle me dit.
je vais y aller. Regarde ta voix sur les fous, t'allumes ta montre pour voir quelle heure qu'elle
est. C'est ça, exactement. Hey Max, merci beaucoup. Prends soin de toi. Et rappelle-nous, c'est quand l'épée légendaire?
Normalement, c'est le lundi soir autour de 20h30 sur épéelegendaire.com/en direct.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et merci beaucoup à vous autres d'être là ce soir. Peut-être un peu plus tard, je ferai un playtest, mais je vous garantis rien, ça va dépendre de Tipette. Merci beaucoup aux gens qui nous font des dons sur Patreon, sur Twitch, en devenant sub également, ou tout simplement sur PayPal. C'est très apprécié. J'ai eu des nouvelles de mes caméras aujourd'hui. Le fournisseur m'a ramené, retourné mon argent. Il m'a dit, j'en fais plus de ce modèle-là. T'en veux-tu un autre modèle? J'ai dit, je vais magasiner ça, je vais aller voir. Mes amis de chez LL Lozo, j'ai comme l'impression qu'ils vont me donner un coup de main mieux que l'autre monsieur qui malheureusement, est pris dans une drôle de situation. Fait qu'on attend ça, mais je garantis un studio nouveau, une nouvelle façon de faire des trucs. Je n'en dis pas plus parce que ça va me faire arracher la tête.
Je vais être obligé d'aller à Montréal pour aller regarder ça, moi.
Non, non, vas-y, quand tu viens à Montréal, tu me lâches un call, t'es le bienvenu, tu le sais, hein, mon vieux.
Ben écoute, là, je t'ai arrêté pendant un mois, fait que ça peut arriver que je débarque.
Fais un tour, appelle-moi avant, il n'y a aucun problème, mon vieux. On se voit plus tard. Je rappelle que cette émission est une gracieuseté de la bière Simple Malte qui nous encourage comme ça. Et merci beaucoup encore une fois de votre appui. Mon nom est Denis Talbot. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de Radio Talbot, ce qui est mon piton. Il est juste là. Salut tout le monde. Bonne soirée.
Radio Talbot vous a été présenté par les Brasseurs Illimités et la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.